Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Depuis mercredi dernier, près de 400 cinémas en France diffusent le nouveau film de Steven Spielberg, Lincoln, avec Daniel Day-Lewis dans le rôle titre. Franck Ferrand revient aujourd'hui sur le grand destin de ce président américain. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Welcome back.
Thank
Julia.
You so much.
Son effigie orne les billets de 5 dollars, sa statue de 6 mètres et quelques de haut trône dans le plus célèbre mémorial de Washington. Son nom a été donné au plus grand centre culturel de New York, Abraham Lincoln, est sans conteste avec George Washington, la grande figure tutélaire des États-Unis. On a beaucoup dit aussi qu'il était l'exemple et le modèle de l'actuel président Obama.
Et comme d'habitude, vous avez su vous entourer de très bons invités.
Mais oui, merci de le souligner. La chère Nicole Bacharan va nous aider à resituer Abraham Lincoln dans son siècle, un siècle, vous allez voir, particulièrement agité. J'ai également convié l'un des biographes du 16e président américain, Bernard Vincent, qui a présidé l'Association française d'études américaines. Et puis, le monsieur cinéma d'Europe 1, Bruno Kras, est avec nous pour évoquer tout de suite, en guise de préambule, le film de Steven Spielberg.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Steven Spielberg a souvent situé dans le passé l'action de ses films. Rappelez-vous Empire du Soleil, Amistad, magnifique, Il faut sauver le soldat Ryan, c'est dur à voir, Munich, Le cheval de guerre, pour ne pas citer les différents épisodes de la saga d'Indiana Jones évidemment. Mais cette fois, comme dans la liste de Schindler, c'est à un grand acteur de l'histoire que s'attaque Spielberg. Je n'ai pas encore trouvé, pour tout vous dire, le temps de voir le film, ça ne saurait tarder, mais Bruno Kras l'a vu et il en parlera mieux que je n'aurais su le faire. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Alors il me semble que dans ce film, un soin très grand a été apporté à l'exactitude historique, ce qui n'est pas toujours le fait des réalisateurs hollywoodiens.
En fait, Spielberg est un très bon raconteur d'histoire. Et à chaque fois, il a, comme tout grand cinéaste, un point de vue. Pour le soldat Ryan, c'était la recherche de ce soldat et à travers ça, le débarquement américain. Pour la liste de Schindler, c'était l'histoire d'un juste et à travers ça, l'Holocauste. Et là, il a fait un travail remarquable parce qu'il est parti d'un livre et surtout, il a eu l'idée de choisir une période très précise de la vie de Lincoln. Les quelques mois avant sa mort, puisqu'il est mort en avril 1865, si je ne me trompe.
C'est bien ça.
Et il a choisi avec beaucoup d'intelligence la période où, où Lincoln s'est battu à la fois pour que se termine la guerre de sécession, qui était très dangereuse pour les États-Unis, pour l'Union, et à la fois pour faire adopter le 13e amendement qui devait abolir l'esclavage. C'est presque Il faut sauver le 13e amendement, pour dire ce film-là. Et il choisit cette période précise en se concentrant, évidemment c'est de la fiction, et en nourrissant ces quelques semaines par la description du Lincoln se battant pour arracher à quelques députés les votes pour faire voter ce 13e amendement, et en même temps en montrant un Lincoln plus intime avec son épouse qui s'était
Mary.
Absolument, qui s'était mal remise de la mort d'un de leurs fils.
Willie, leur
voilà, qui avait peur, parce que l'autre fils avait quitté ses études et voulait absolument, alors que c'était la fin de la guerre, participer à la guerre de sécession. Et ni Lincoln ni son épouse ne le souhaitaient, paradoxalement. Et il a cette femme qui est dans la douleur, il s'occupe de son enfant, il s'occupe de sa vie familiale et en même temps il se bat politiquement et c'est un lourd et dur combat. Donc à travers ce film, moi qui ne connaissais pas Lincoln et grâce à l'interprétation, on peut en dire deux mots,
de Daniel Day-Lewis,
extraordinaire, Daniel Day-Lewis, on a ce que devait être cet homme d'État. C'est-à-dire que Daniel Day-Lewis, non seulement physiquement...
Oui, la ressemblance est très frappante. Hein, c'est...
Il fait une composition incroyable, mais comme c'est un fou, Daniel Day-Lewis, dans le bon sens du terme, il faut savoir que quand il jouait My Left Foot, un handicapé, il se faisait porter, il voulait pas marcher, il se faisait porter sur le plateau et se donnait à manger avec une petite cuillère pour rester dans le personnage. Là, il a gardé la voix de Lincoln pendant tout le tournage, et c'est qu'au moment de dire au revoir à Spielberg qu'il a retrouvé sa vraie voix. Donc je peux vous dire que c'est, il est très spécial, Daniel Day-Lewis. Donc il a trouvé une voix, comme ça, dans la tête, parce qu'on n'a pas d'enregistrement. Il a trouvé une voix haut perché. Parce que Lincoln, on sait qu'il avait la voix au perché, une voix de ténor. Il a trouvé un accent. Il a composé cet homme est flanqué,
émacié,
hein,
oui.
1m93, très grand. Et surtout, ce que je trouve extraordinaire, c'est que il donne une espèce d'aura de charisme que devait avoir Lincoln. Parce que c'est quoi l'étoffe d'un homme d'État et d'un homme qui avait cette force d'âme, ce courage, ce sens politique, c'est quoi? Bah lui, là, Daniel Day-Lewis, il arrive à cette performance que, voilà, quand on le voit, non seulement on oublie que c'est Daniel Day-Lewis, mais on se dit, oh, dis donc, ce Lincoln, quel homme c'était. On comprend pourquoi Lincoln a laissé sa place dans l'histoire, parce qu'encore une fois, il donne Daniel Day-Lewis l'essence de ce que devait être cet homme d'État.
Et tout ça sous la baguette d'un Spielberg très inspiré, semble-t-il.
Oui,
hein,
oui,
belle,
alors
belle
ça
mise
pourrait
en scène.
Être. Ce qui est extraordinaire, c'est que sur le papier, on se dit bon, c'est politique, il va y avoir des histoires,
et des longueurs. Il y a quand même quelques critiques qui disent que c'est un peu long.
Moi, j'ai pas trouvé. Moi, je suis pas arrivé acquis parce que voilà, Spielberg, il peut parfois rater un film, mais j'ai trouvé que pour un film, alors on voit la guerre, mais c'est toujours ça Spielberg, c'est que il nous donne deux ou trois images de la guerre de sécession, je vous les donne pas parce qu'il faut aller voir le film, mais comme dans la liste, moi je pense que le film a la gravité de la liste de Schindler, je sais pas pourquoi, il y a des traits communs avec ce film. Dans la liste de Schindler, il y avait deux ou trois images, dont cette image de la petite fille en rouge qu'on voit essayer d'échapper au ghetto et qui finalement on retrouve sur un tas de cadavres, et là, il y a deux ou trois images de la guerre de sécession que vous garderez toute votre vie dans votre tête, je vous le garantis, parce qu'il y va pas avec le dos de la cuillère, Spielberg.
Et Spielberg, il a peintre d'icônes, en quelque
absolument,
sorte.
Absolument, absolument. Et il a ce sens du récit qui fait que c'est une histoire politique, c'est un thriller politique, et on ne s'ennuie à qu'une seconde.
Eh bien, on n'a plus qu'une envie, c'est d'y courir maintenant. Merci infiniment, Bruno Kras.
And Battle Cry for Freedom, extrait de la BO du film de Steven Spielberg, Lincoln, l'occasion d'évoquer le film, mais aussi la figure du 16e président des États-Unis.
Et oui, et on est bien content de travailler sur Europe 1 de temps en temps grâce à cette incroyable vivier de talents. Nous avions Bruno Kras pour nous parler de l'aspect cinématographique des choses et pour nous parler des États-Unis, évidemment, nous avons Nicole Bacharan. Bonjour.
Oh, merci,
Nicole.
Quel accueil, merci Franck.
Alors il faut que nous resituions non seulement ce film, mais ce personnage, évidemment, cet Abraham Lincoln, dans un début de troisième tiers de 19e siècle, extrêmement agité, il faut le dire. Alors, tout à l'heure, en compagnie d'un des biographes de Lincoln, en compagnie de Monsieur Vincent, on va essayer de voir d'où il venait, quelle avait été sa jeunesse, sa formation assez extraordinaire, car c'est un self-made man, hein, c'est
totalement,
le bûcheron
totalement.
Devenu, après avoir été
parti
avocat,
de
devenu
rien.
Président. Bon, on va raconter l'histoire de la cabane en rondin, mais avant d'entrer dans tout ça, j'aimerais que vous nous dressiez l'état des lieux, si je puis dire, au moment où est élu le 16e président Lincoln.
C'est la plus grande tragédie américaine. Abraham Lincoln est élu en novembre 1860 et les États du Sud, à cette époque-là, considèrent que même s'il a dit qu'il ne le ferait pas, il considère qu'il voudra, d'une façon ou d'une autre, abolir l'esclavage et ils font progressivement sécession. C'était une question qui n'était pas réglée dans la Constitution américaine. Est-ce que les États rentraient librement pour faire partie des États-Unis? Pouvaient-ils en sortir? Au fond, la question n'avait pas été posée. Ils font sécession.
Alors, au cours d'une émission que nous avions consacrée il y a un peu plus d'un an maintenant à la guerre de sécession, je m'étais appliqué à démontrer que la question de l'esclavage n'était qu'un des 5 ou 6 aspects qui avaient créé la sécession et qui avaient entraîné la guerre, en fait. On a eu tendance, peut-être d'une façon un peu mythologique, à mettre cette question de l'esclavage au premier plan et à dire tout s'est fait pour une raison d'esclavage. En fait, il y avait bien d'autres raisons, et notamment commerciales, très très fortes, hein, évidemment.
Exactement.
Il y avait l'industrie du Nord face aux négoces du Sud, en quelque sorte.
Exactement. On avait en fait deux pays qui étaient en train de se constituer, de diverger de plus en plus. Vous aviez les États du Nord qui avaient le monopole sur les mines, les industries qui devenaient des industries lourdes, toute l'industrialisation, le commerce, la bourse, les banques, les chemins de fer, donc l'économie moderne en pleine expansion.
Ce qui va devenir les États-Unis archétypaux tels que nous les avons à l'esprit, c'est le Nord qui les incarne.
Exactement. Oui. Et le Sud, c'est un régime féodal, et en
oui.
réalité, avec des esclaves, donc en quelque sorte des serfs, comme on a pu en avoir au Moyen-Âge en Europe.
Ou comme on en avait encore à la même époque en Russie, jusqu'à
Exactement.
Ce qu'Alexandre II...
Voilà. Et une économie totalement agricole et totalement archaïque, qui était basée sur l'expansion des terres, de plus en plus, pas une agriculture intensive, mais une agriculture de plus en plus étendue, donc ayant besoin de plus en plus d'esclaves, et cultivant le coton, le tabac, l'indigo, toutes ces denrées indispensables à l'industrie du Nord et de l'Europe. Donc les prix des denrées produites dans le Sud étaient en fait fixés sur les places commerciales du Nord.
Alors 10 ans avant l'élection de Lincoln à la Maison-Blanche, il y a ce qu'on appelle le Gold Rush, c'est-à-dire cette espèce de poussée considérable vers l'Ouest où on a découvert de l'or. En fait,
on découvre de l'or en 1849, donc les pionniers, il y en a beaucoup qui viennent de France d'ailleurs, se précipitent pour tenter de faire fortune, certains y parviendront, mais en plus de cela, petit à petit, les Américains colonisent les territoires de l'Ouest et chaque fois qu'un territoire est assez peuplé, il peut devenir État. Et la question, cet État-là sera-t-il libre, comme on disait à cette époque, ou esclavagiste? Et la concurrence est terrible parce que c'est la concurrence pour la terre, mais c'est la concurrence pour le pouvoir économique et le pouvoir politique. C'est-à-dire que chaque nouvel État envoie des élus à Washington. Les élus vont-ils défendre les intérêts des États esclavagistes ou les intérêts des États libres? Et c'est vrai que quand la guerre éclate, on ne parle pratiquement pas des esclaves. On parle du maintien de l'Union, ça c'est la vocation d'Abraham Lincoln, maintenir l'Union, protéger la Constitution, et le Sud parle du droit des États. Et dans le droit des États, ils mettent le droit et même, disent-ils, la liberté d'avoir des esclaves.
Alors les institutions de l'Union fédérale de l'époque sont très proches de ce qu'elles sont demeurées aujourd'hui. On a le même système, un congrès avec ces deux chambres évidemment. Quels sont les partis politiques qui dominent la scène américaine à l'époque? C'est là que c'est un peu différent.
Oui,
évidemment.
La crise est tellement violente, tellement tragique qu'on a un système bipartisan comme aujourd'hui. Toutes les institutions américaines poussent à ce regroupement de partis, mais un des deux partis va disparaître. Et Abraham Lincoln, d'ailleurs, il y a les démocrates, et Abraham Lincoln a démarré sa carrière politique chez les Whigs, un nom un peu hérité de la Grande-Bretagne. Et puis ce parti-là se défait de plus en plus quand même sur la question de l'esclavage. Et le parti qui monte, qui élit finalement Abraham Lincoln, c'est le parti républicain. Les progressistes d'alors sont les républicains.
Voilà, c'est ce qu'il faut bien avoir à l'esprit parce que ça a beaucoup changé.
Oui,
ça,
on peut
évidemment.
Dire ça quand même.
Alors avec vous maintenant, Nicole Bacharon, nous allons voir comment, sur quelles grandes idées Lincoln s'est fait élire et quelle a été la première grande décision de sa présidence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été facile pour lui.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Nous nous intéressons aujourd'hui sur Europe 1 à la figure d'Abraham Lincoln, toujours en compagnie de Bruno Kras, qui est le critique cinéma d'Europe 1, et de Nicole Bacharan, consultante d'Europe 1 pour les États-Unis, auteur notamment des Noirs américains, des Sean Cotton, à la Maison-Blanche et Tempus.
Nicole Bacharan, dans cette élection, on ne peut pas dire qu'Abraham Lincoln avance tout à fait à visage découvert. Il ne dit pas qu'il est pour l'abolition de l'esclavage.
Exactement. D'ailleurs, c'est une chose qui, je trouve, ressort bien dans le film. C'est un homme politique, Lincoln. C'est pas un grand idéaliste. Il est très retors, il est très malin.
On est en 1860, il faut bien
dire.
Oui,
et il est très complexe. Effectivement, il s'est exprimé avant sur la question de l'esclavage. Il trouve que moralement, c'est totalement répréhensible, que posséder et vendre des êtres humains, ça ne devrait pas avoir lieu. Mais comme les hommes de son temps, il est quand même assez raciste. Il pense que il ne pense pas que les races, comme on dit alors, soient égales et qu'il vaudrait mieux que les Africains retournent ou en Afrique ou même en Amérique latine, qu'il n'y a pas vraiment une solution américaine à tout ça. Mais ayant dit et en fait tout cela, évidemment, il suscite une immense méfiance dans le Sud. Mais lui,
il est élu par tous les États du Nord et rejeté par tous les États du Sud. Son élection est une élection de dissociation, en quelque sorte.
C'est l'élection de la sécession.
C'est la sécession déjà qui s'inscrit. Hein.
Voilà, le Nord le choisit, le Sud ne veut pas de lui, et son élection déclenche le départ des États du Sud.
C'est ça qui est terrible, c'est que ça ne doit pas être très facile. Il est élu président, et au moment de son élection, eh bien, clac, c'est le décrochage, en quelque sorte. Les 11 États du Sud font sécession. Enfin, ça ne se fait pas en une seule fois, du
non,
reste.
Non, ils font ça un petit peu en ordre dispersé, mais ça arrive assez vite. Il y a 4 États esclavagistes qui sont, disons, à la frontière du Nord, qui ne font pas sécession. Les autres quittent l'Union. Quelques semaines, il ne se passe rien. Mais on est un petit peu comme en août 14. Vous savez, on ressent que les deux côtés veulent en découdre. Et qu'ils pensent que ça sera le Nord et le Sud, ils pensent que ça va être facile, que ça va être rapide, que dans quelques semaines ils vont être rentrés chaque côté, hein, et que la victoire, voilà, sera éclatante. Ce qui fait que ce sont des sudistes qui tirent les premiers coups de feu à Fort Sumter, donc sur des navires de l'Union, et c'est la guerre.
De l'Union, donc du Nord. Et alors, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a une présidence qui est une présidence de guerre. On parle du président Lincoln comme s'il était notamment le président de la guerre de sécession, mais non, il est exclusivement le président de la guerre de sécession. Il est élu, c'est la sécession, c'est la guerre quasiment immédiate. Il va y avoir ces 4 années de guerre qui vont faire d'ailleurs des centaines de milliers de morts, 700 000 morts
Environ,
en total.
Oui.
C'est une saignée considérable et qui est fondatrice pour l'histoire des États-Unis, bien entendu. Et puis, dès que la guerre s'arrête, le président est assassiné. Donc en fait, ce président Lincoln, il n'aura été qu'un président de guerre.
Sa présidence est dominée par la guerre. Il devient chef de guerre alors qu'il n'y était pas du tout préparé. Il n'a pas fait de service militaire. Il a été dans une petite patrouille ou milice pendant les guerres indiennes quand il avait une vingtaine d'années. Et il n'a même pas vu un seul combat. Et donc, il se retrouve chef de guerre et les généraux nordistes ne s'y prennent pas très bien, perdent une bataille après l'autre, ils changent. C'est extrêmement dur pour lui, c'était aussi un grand dépressif, Lincoln, comme Churchill. C'est pas antinomique avec le fait d'être chef de guerre. Et Lincoln, la nuit à la Maison Blanche, étudie des manuels de stratégie militaire.
Il essaie de rattraper le
temps perdu. Voilà, de trouver la bonne méthode. Et c'est vrai que toute sa présidence, à la fois sur le plan politique et bien sûr militaire, est dominée par cette guerre. Il a été traité de despote.
Il se rend sur place. On a ces photos d'ailleurs qui le présentent comme une sorte de tige gigantesque.
Avec
immense,
le chapeau de
il domine
au-dessus.
Tout le monde. Oui, parce que non seulement il est très grand, mais en plus il a un chapeau de forme qui ressemble à un tuyau de poêle. Hein.
Exactement. Donc c'est comme un long tuyau, effectivement, Abraham Lincoln. Et il a été traité très souvent de despote à cette époque. Il n'était pas très populaire. D'abord parce que vous le dites, la guerre est une boucherie. Hein. C'est environ 700 000 morts alors qu'il y a 31 millions d'habitants. Et puis parce qu'il suspend, au nom de la cause, au fond, comme il l'appelle, il suspend beaucoup de libertés et beaucoup de droits américains, comme l'habeas corpus, la liberté de la presse. Là, il y a une très forte censure. Juridiquement, ça n'est pas vraiment au carré, cette affaire-là.
Oui, bien sûr. Bruno, on voit dans le film, on voit Abraham Lincoln au front, au combat, si je puis dire. On le voit se promener sur le théâtre des opérations.
On le voit un peu sur le théâtre des opérations, mais on voit pas la guerre.
Oui,
c'est pas un film sur la guerre. On voit pas vraiment de scène de guerre dans le film.
Alors que il a été très présent, hein, ça on peut le dire.
Oui, il faisait le tour des campements, il allait réconforter les soldats, il allait discuter avec les généraux, il ne les lâchait pas. Hein. Il y a un télégramme qui a été envoyé à un général nordiste qui hésitait à engager une certaine bataille. Lincoln lui a fait savoir, si vous n'avez pas besoin de l'armée aujourd'hui, est-ce que je pourrais l'emprunter? Je pense que c'était un trait d'humour, voilà, mais que ça n'était pas vraiment une option.
Est-ce que l'on peut dire que peu à peu, on voit les opinions du président se radicaliser, notamment en matière d'esclavage?
Au fond, je pense que par la tragédie qu'il traverse, Lincoln est amené à aller au cœur du drame américain. C'est un pays qui a été fondé quelques années auparavant, en 1776, disons, à la fois sur la passion de la liberté et sur l'esclavage. Et donc, ça n'était pas tenable. Il y a eu une révolution qui n'est pas allée au bout. Et petit à petit, Lincoln se rend bien compte que les prérogatives de l'Union, les droits des États, l'économie, la politique, tout ça, en fait, ça veut dire l'esclavage. C'est pas tenable.
Et donc,
le pays sera libre ou esclave.
Il faut une solution transcendante. Il faut abolir l'esclavage. Ce sera donc ce combat terrible des derniers mois de sa vie. Et ça, c'est l'objet même, c'est le cœur même du film de Spielberg, bien entendu. Alors, évidemment, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Et dans l'ombre, il y a des gens qui sont en train de tramer son assassinat, déjà. Hein.
Oui, bien sûr.
Il multiplie les ennemis.
Je veux dire, encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'ai vécu longtemps dans le Sud et je vous assure que d'abord, c'est encore très présent et que Lincoln n'est pas aimé partout. C'est le moins qu'on puisse en dire.
Il va bientôt être assassiné, c'est ce que je vais vous raconter maintenant.
Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Avec un récit de Franck qui nous relate donc maintenant sur Europe 1, l'assassinat d'Abraham Lincoln.
Au tout début du mois d'avril 1865, le président Lincoln aurait fait un rêve terrible. Un rêve qu'il l'aurait éveillé au milieu de la nuit, couvert de sueur froide et ne pouvant se rendormir. Il devait raconter ce rêve quelques jours plus tard à sa femme et à trois amis qui nous en ont transmis la substance. Il rêve, ce président, qu'un matin, il est en train de se réveiller à la Maison Blanche et il entend des bruits de sanglots, des bruits de sanglots étouffés. Alors il se lève, il descend l'escalier, puis il entend les sanglots de plus en plus forts. Il s'avance vers une des salles de l'est de la Maison Blanche, et là il découvre un grand catafalque avec des draperies funèbres. Mais qui est mort à la Maison Blanche, demande-t-il, et on lui répond: c'est le président, il a été assassiné. À l'évocation de ce rêve, sa femme Mary est bouleversée. Mais c'est horrible, dit-elle. Oh, ce n'est qu'un rêve, Mary, n'en parlons plus. Un rêve qui était extraordinairement prémonitoire, puisqu'il semblerait qu'il ne restait au président que 2 semaines à vivre. En effet, dans l'ombre, le fils d'un comédien, le fils de Booth, il s'appelle John Wilkes Booth, est en train de préparer l'assassinat du président. C'est un hyper nerveux, avec de jolis traits, des façons gracieuses. Depuis longtemps, on peut dire depuis toujours, ce Booth cherche l'éclat. Au collège, déjà, il disait à ses camarades: supposez que je fasse quelque chose d'extraordinaire, par exemple que j'abatte le colosse de Rhodes. Alors ses camarades riaient. Et s'il s'abat sur toi, eh bien, je mourrai, mais au moins, mon nom ne disparaîtra plus de l'histoire. C'est toujours inquiétant, ces espèces d'assassins dans l'âme qui veulent laisser un nom pour les pires raisons possibles. D'ailleurs, une diseuse de Bonaventure avait dit à Booth, semble-t-il, parce qu'on a fait toute une légende autour du personnage, évidemment: vous finirez mal et je voudrais ne pas avoir vu cette main-là. C'était une chiromancienne. Alors, John Wilkes Booth va prendre fait et cause pour le Sud. Il fait partie de ces défenseurs acharnés de l'ancien système dont nous parlait Nicole Bacharan il y a un instant. Il voue une haine féroce envers Lincoln, et pendant l'hiver 1865, il s'installe dans une pension de famille à Washington, où il réunit toute une bande de dévoyés, et ensemble ils vont mettre sur pied un véritable plan pendant tout le mois de janvier. Le but, c'est d'abord d'enlever Lincoln et de l'emmener chez les confédérés. Seulement, le soir où ils ont prévu leur coup, il se trouve que c'était dans un théâtre déjà. Lincoln n'est pas venu, a dû annuler sa participation, sa présence à la représentation. Une autre fois, ils avaient projeté de stopper sa voiture, ils finissent par y arriver, ils stoppent la voiture du président, mais elle est vide. De toute façon, à ce moment-là, Lee a déjà fait sa reddition, c'en est fini du Sud, et l'on peut dire que pour Booth, il ne s'agit plus d'infléchir le cours des événements, il s'agit simplement de vengeance. Booth n'est pas seul, hein, je vous l'ai dit, il a avec lui Harold, qui a 20 ans, mais qui en fait a 11 ans d'âge mental, c'est un prisonnier sudiste évadé. Il y a Penn, qui a également une vingtaine d'années, une sorte de force de la nature qui obéit aveuglément à celui qu'il appelle Captain. Il y a Atzerodd, qui est assez porté sur la boisson, qui est peut-être le moins fanatique de la bande. Ils ont tous le même but, organiser un crime spectaculaire. Que j'ai tort ou raison, c'est Dieu qui me juge, pas les hommes, écrit dans son carnet Booth. Alors, il faut bien comprendre que ce personnage est assez isolé. Hein. On a beaucoup cherché, évidemment, à le relier à toutes sortes d'organisations, notamment des organisations sudistes, plus ou moins occultes. En fait, rien n'a jamais pu être mis en évidence. La pension de famille où il se trouve devient un véritable foyer de sédition, vous l'avez compris. Il a prévu, Booth, non seulement d'assassiner le président, mais d'assassiner également le ministre des Affaires étrangères, Stewart, d'assassiner Grant, d'assassiner le vice-président Johnson, enfin tout le monde. On a déjà prévu les chevaux pour faciliter la fuite et l'on fixe la date de l'assassinat. Ce sera le 14 avril. Ce soir-là, Ce soir-là, le président doit se rendre au théâtre pour une sorte de jubilé, de gala. Au départ, ça devait avoir lieu au théâtre Groove. D'ailleurs, évidemment, Booth avait loué une loge. Seulement, Booth apprend la veille que Lincoln a choisi finalement le théâtre Ford, le vieux théâtre Ford, pour cette soirée de gala. Alors, il se rend dans la matinée au théâtre. Il ne faut pas oublier que c'est un acteur lui-même et que c'est un acteur assez connu, donc c'est facile pour lui. Il entre, on ne se méfie pas du tout de lui. Il reste seul dans la salle. Et là, il s'approche de la loge d'avant-scène. C'est la loge d'avant-scène côté cour où va s'installer la famille présidentielle. Et avec une vrille, il arrive à percer un trou dans la porte de la loge. Il arrive aussi à opérer des changements, à bloquer, si vous voulez, la porte qui donne du couloir de cette loge présidentielle jusqu'au premier balcon, ce qui lui permettra d'opérer tranquillement. On apprend à ce moment-là que Grant n'assistera pas à la soirée. Alors ça, c'est un coup dur, évidemment, pour le petit groupe. Il faut imaginer Booth chauffant ses camarades à blanc. Il veut absolument qu'on exécute, comme il dit, Stewart. Il insiste pour qu'Azerrod aille tuer Johnson. Alors Azerrod lui dit, mais non, finalement, moi, il ne va pas jusqu'au bout. Et à ce moment-là, il y a cette phrase terrible dans la bouche de Booth qui lui dit, eh bien, que tu le fasses ou non, de toute façon, tu seras pendu comme nous. Vous voyez qu'il ne se faisait finalement pas tellement d'illusions sur son sort. À 16h, le 14 avril 1865, le président fait sa promenade quotidienne en voiture avec sa femme. Washington est en fête, faut imaginer, c'est la victoire pour le Nord. Il y a toute une unité à reconstruire, mais c'est aussi pour le président un moment de soupir, de soulagement, si vous voulez. Il y a deux visites à la Maison-Blanche cet après-midi-là, celle du gouverneur de l'Illinois et celle d'un général. Madame Lincoln a prévu de dîner tôt, car elle tient absolument à être au théâtre à 20h. Elle est assez touchante, Mary Lincoln, parce qu'elle veut absolument assister à cette soirée de gala, bien qu'on soit le jour du vendredi saint et que son mari ne soit pas très partant pour sortir. Mais elle est tout émoustillée, il n'ose pas la décevoir. Finalement, ils iront. Dans la journée, Grant avait envoyé des excuses. Il faut dire que lui, alors, était encore plus puritain, si je puis dire, que Lincoln. Il n'était pas question pour lui d'aller au théâtre le soir du vendredi saint. Stanton, qui est le ministre de la guerre, qui est le personnage fort du régime, désapprouve du reste ce genre de sortie au théâtre. Lincoln est mal protégé, il faut le dire. Il a choisi pour garde du corps un jeune major qui est le fiancé de la fille d'un sénateur. Et en route, en partant, la voiture présidentielle va s'arrêter chez les jeunes gens pour les prendre avec le couple présidentiel. Et finalement, c'est avec juste cette très très petite escorte que le président s'installe dans la loge d'avant-scène. Au deuxième rang, à l'arrière, il laisse les jeunes gens au premier rang. Alors, il faut imaginer la salle qui se lève, standing ovation, l'orchestre qui joue, tout va bien. On a l'impression que c'est la paix maintenant. Et l'on voit d'ailleurs Mary Lincoln se rapprocher de son mari. Elle est heureuse, elle minaude. Elle a l'impression, après tous les malheurs qu'ils ont eus, les malheurs publics mais aussi les malheurs privés. Nicole, vous parlez à l'instant de la perte de leur jeune fils Willy. Elle a l'impression, Mary, que plus rien ne va se passer de mal maintenant et que tout ira bien. Elle se rapproche de son mari et elle lui dit d'ailleurs, oh là là, si les jeunes gens qui sont juste devant eux me voient m'accrocher à votre bras, que penserait-il? Et le président lui dit, mais il ne penserait rien du tout. Il n'aura pas le temps d'en dire davantage puisque c'est à ce moment-là que Booth est entré dans la loge. Alors, on ne l'a pas vu, bien sûr. Personne n'a fait attention à lui. Il a tiré une balle pendant un éclat de rire de la salle. Il en a profité pour tirer une balle à bout portant dans la nuque du président. Et puis, il a enjambé le balcon. Il s'est reçu. Alors, il se trouve que son éperon a accroché l'une des tentures de la loge, donc il s'est mal reçu sur la scène. C'est là qu'il va se briser un os d'une jambe, donc ça, il s'en va dans des conditions difficiles, mais on n'arrive pas à l'arraisonner. Il y a une très grande confusion dans cette affaire. Le président a été tué, on peut dire, sur le coup. Alors, il y a quand même le jeune garde du corps qui était là, a essayé de se battre. Il y a une espèce de débauche de rix avec Booth, mais qui ne donnera pas grand-chose, sinon que lui sera blessé. Il écopera de trois blessures au bras. Finalement, lorsque Madame Lincoln se rend compte de ce qui vient de se passer, elle hurle. Il y a une rumeur dans la salle. Là, on crie « Arrêtez-le, arrêtez-le !» Mais c'est trop tard. Booth s'est enfui. « On a tiré sur le président, crie-t-on. Il n'y a pas d'autres services d'ordre. Il y avait deux soldats quand même qui étaient théoriquement à la porte de la loge, mais ils étaient partis boire un verre avec le cocher de la berline présidentielle. Tout ça s'est fait dans une atmosphère de très grand relâchement, assez surprenant, il faut bien le dire, et c'est ce qui a évidemment posé tant de questions sur les causes de cet assassinat. Que s'est-il passé pour les autres victimes programmées, parce qu'il y avait d'autres assassinats prévus ce soir-là? Qu'est devenu John Wilkes Booth et comment s'est effectuée la succession du président tué sur le coup? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Un nouvel extrait sur Europe 1 de la BO du film de Steven Spielberg, Lincoln, Getting Out the Vote, Franck.
Bonjour Bernard Vincent.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoint. Votre ouvrage Lincoln, l'homme qui sauva les États-Unis, est édité chez l'Archipel. Alors, est-ce que j'ai raison de dire que Booth a agi seul et qu'il n'y avait pas de complot derrière lui? Est-ce que c'était vraiment l'acte d'un isolé?
Il n'y avait pas un immense complot. Il avait quelques partenaires.
Oui, mais donc il était lui-même le cerveau, en fait.
C'était lui le cerveau. Vous avez fort bien décrit la scène de l'assassinat. Sauf que dans le film de Spielberg, cette scène n'est pas représentée. Oui. Alors que c'est quand même un moment
très
critique.
Oui.
On voit simplement Lincoln, sa femme et ses amis étaient dans la loge la plus proche de la scène, du côté droit du théâtre, et on voit simplement un enfant dans la loge d'en face qui crie « on a tiré sur le président ». Et cette scène qui est quand même capitale, avec l'assassin qui saute de la loge. Moi, je suis allé dans ce théâtre Ford à Washington.
Oui.
Je suis allé dans la loge et je vous assure que pour sauter de cette loge sur la scène, il fallait qu'il soit sportif, le type. Et d'ailleurs, il s'est cassé une jambe. Il a pu sortir malgré tout. Quelqu'un l'attendait avec un cheval. Il s'est évadé. On l'a retrouvé quelques jours plus tard.
Oui, il y a quand même
planqué,
13 jours. Hein, de...
Planqué dans une ferme. Et la ferme encerclée par l'armée. Et d'un seul coup, ils ont décidé de mettre le feu à la ferme.
D'enfumer
dans la grange
fugitifs,
qui était derrière
oui.
la maison. Ce qui l'a obligé à sortir. Et à ce moment-là, l'un des soldats a tiré sur lui et l'a tué. Et ce soldat a été inquiété. Parce que la consigne, ça n'était pas de tuer Booth, mais c'était de le faire prisonnier et de le faire parler. Et de voir s'il n'y avait pas une conspiration derrière lui. Et on a accusé ce soldat d'être un complice de Booth. Et il a été emprisonné peu de temps. On s'est rendu compte que c'était... Bon, il a voulu trop bien faire, si vous voulez. Mais il n'aurait pas dû tirer.
Alors, les complices de Booth n'ont pas été au bout de leur mission, eux non plus. Hein,
ils ont... Eux non plus, mais ils ont tous été pendus.
Oui.
Ils ont tous été pendus. Alors voilà, c'est un excellent...
Et le médecin qui avait soigné Booth pendant sa cavale a été condamné à la prison à vie. Hein, donc,
oui. Et quand vous avez dit que Lincoln avait été assassiné le 15, donc il a été assassiné le 14,
le 14
avril.
Oui, c'est ça, oui.
Il n'est pas mort tout de suite. Mmh. Il a été transporté dans la maison d'en face, que j'ai visité également, et allongé sur le lit pendant toute la...
On dit que le lit était trop petit, on a été obligé de le mettre en travers. Hein.
Absolument, parce qu'il mesurait 1m92-93, et les lits étaient faits pour des gens d'1m70, et donc il était mis en biais. Et sa femme est venue quelques temps, peu de temps. Ensuite, on l'a éloigné parce que c'était trop pénible. Et il est mort le matin du 15 avril.
Oui, parce qu'il râlait
avril,
à l'infini. Hein.
À 7h22.
C'est ça, oui. Et donc là, à 7h22, c'est Stanton, ministre de la guerre, je disais tout à l'heure l'homme fort du régime, qui constate en quelque sorte la mort du 16e président. Et c'est donc le vice-président qui va devenir le 17e président, c'est Johnson.
Johnson qui va devenir le 17e président pendant quelques temps, jusqu'à l'élection de Grant un peu plus tard.
Alors ça, c'est pour la fin, si je puis dire. Aujourd'hui, on fait tout à l'envers, puisque oui. Nous venons de parler de la mort du président Lincoln. Et ce que j'aimerais, c'est que nous revivions maintenant un peu sa vie, en quelque sorte, et que nous repartions à sa naissance. Alors, quelles sont ses origines? Ça,
alors,
il faut dire.
Partant de sa naissance, il est né en 1809. Son père était un bûcheron, un pauvre bûcheron illettré, qui travaillait au fin fond des forêts du Kentucky.
C'est incroyable, c'est quand même.
C'est là qu'il est né, dans cette forêt. Et le père qui était un travailleur forcené, avait une qualité. Il était hostile, absolument hostile à l'esclavage. Et il a enseigné cette leçon
mais oui, voilà.
À son fils. Donc c'est dès l'enfance que Lincoln, il l'a dit plusieurs fois dans son existence, ça remonte à toute petite enfance, son opposition à l'esclavage. Alors son père ne voulait pas qu'il aille à l'école. En plus, il n'y avait pas d'école.
C'était plus simple.
De temps en temps,
on est au tout début du 19e siècle.
De temps en temps, passait un instituteur dans le coin. Alors sa mère, elle, voulait qu'il aille, apprendre, donc il allait voir l'instituteur, etc. En tout, dans sa vie, il a fait moins d'un an de scolarité. Donc ça a suffi pour qu'il apprenne à lire, à écrire et à compter.
On peut parler d'un surdoué, quelque part?
Ah oui, bah absolument. Oui. C'était un surdoué monumental. Parce qu'à partir de là, il s'est fait prêter des livres par des amis et il s'est initié à la littérature universelle. Shakespeare, etc. Il lisait énormément. Et ensuite de quoi? Ses parents ayant déménagé, s'installant à Springfield, etc., il s'est intéressé au droit. Il s'est fait prêter par des amis tous les livres de droit, tous les types de droit d'ailleurs. Et il apprenait ça par cœur. Et il est devenu,
un avocat.
Oui, et il a été reconnu comme tel par la Cour suprême de l'Illinois comme apte à exercer le métier d'avocat.
C'est ça.
Et juste avant, il est tombé amoureux d'une charmante femme qui s'appelait Anne Rutledge. Mm-hmm. Et il était follement amoureux d'elle. Malheureusement, elle est soudainement morte de la typhoïde. Et ça a été le grand chagrin de sa vie. Et à partir de cette heure-là, il est devenu dépressif.
Il faut dire qu'il avait déjà perdu, quand il avait 9 ans, il avait déjà perdu sa mère.
Hein, avait perdu sa mère. Ensuite, il perdra deux fils sa sœur et
sa belle-mère l'avait beaucoup aimé et soutenu. Hein, il faut dire, hein, c'est pas une marâtre.
Parce
loin
que
de
son
là.
Père, sa mère est morte. Son père a épousé une autre dame qui a été extrêmement gentille et affectueuse avec Lincoln et Lincoln le lui rendait bien.
Alors comment cet ancien bûcheron devenu avocat assez tôt va-t-il entrer dans la carrière politique et devenir l'homme que nous connaissons? C'est ce que nous voyons avec vous Bernard Vincent. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Lincoln, l'homme qui sauva les États-Unis, c'est chez l'Archipel.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
The Race to the House, nouvel extrait de la BO de Lincoln, le film de Steven Spielberg. Et les réactions sont nombreuses à nous parvenir, Franck.
Et oui, et Patrick nous demande notamment s'il n'y aurait pas un prolongement de Lincoln à Kennedy. Les deux ont dû faire la guerre pour le Nord contre le Sud, dit-il. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, ça. Les deux ont lutté contre la ségrégation et les deux seront assassinés, Nicole Bacharan.
Mais c'est vrai que les deux ont marqué par leur fin tragique. Kennedy a fait un pas en direction de la déségrégation, un pas important.
C'est Johnson qui fera le deuxième.
Pas aller au bout. Et c'est vrai que le parallèle le plus fort...
D'ailleurs, les deux ont un successeur qui s'appelle Johnson, au passage.
Oui, c'est vrai. Il y en a plusieurs. Et c'est vrai que le parallèle le plus fort, il est quand même peut-être avec Barack Obama. On n'espère évidemment pas sur la fin.
La fin, bien sûr.
Mais Obama lui-même a marqué ce parallèle en faisant l'annonce de sa candidature présidentielle, souvenez-vous, à Springfield, Illinois, comme Abraham Lincoln, en arrivant en train à Washington en 2009, donc pour l'investiture, comme Abraham Lincoln, avec ses cérémonies au pied du monument Lincoln, il y a une forte identification entre ces deux présidents.
Alors,
Bernard Vincent.
Effectivement, et là, Obama jurant, prétend serment sur la Bible de Lincoln.
D'Abraham Lincoln.
Oui, il a choisi celle-ci.
Oui, tout à fait.
Cette journée d'investiture est toujours chargée de symboles, évidemment.
Si je peux me permettre, suivi la campagne à la télévision, la campagne présidentielle d'Obama, première, et une conférence de presse. Et un journaliste lui demande la première question : qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Et il a répondu : ce que je lis. Lincoln.
Oui. Donc il a voulu inscrire ses pas dans ceux du 16e président. Alors quel genre d'avocat était-il ? Est-ce qu'on sait s'il aimait... j'imagine qu'il aimait plaider parce qu'il avait un don oratoire hors du commun.
Il avait un don oratoire hors du commun et il plaidait pour de grandes causes, pour de grandes entreprises par exemple, et pour de petites gens. Et lorsqu'il plaidait pour quelqu'un de pauvre, qui n'était pas en mesure de le payer, il acceptait ça très bien. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à l'appeler l'honnête Abraham, Honest Abe.
Honest Abe, c'est son surnom.
Et de même, lorsqu'il est devenu président, sa femme, qui était d'un milieu beaucoup plus bourgeois, était extrêmement dépensière. Et un jour, elle a commandé 50 paires de chaussures. 50 paires de gants, pardon.
Ah, quand même.
50 paires de gants. Et son mari lui a dit, mais c'est de la folie, mais on va certainement pas payer ça sur l'argent public. Et il a payé de sa poche.
Mm-hmm. Donc il est resté honnête.
L'honnête Abraham.
Jusqu'au bout.
Voilà.
Alors,
et donc, il a, après avoir lu la littérature universelle dont je parlais tout à l'heure, il a appris le droit. Il s'est fait prêter des livres de droit et il en savait tellement long que la Cour suprême l'a autorisé à exercer le métier de lawyer.
Oui, donc alors lawyer, c'est plus qu'avocat. La voie classique.
Hein. Lawyer en anglais et en Amérique,
c'est juriste.
C'est juriste, c'est-à-dire avocat, mais huissier, toutes sortes de fonctions, notaire. Ça réunit un peu tout ça, lawyer.
Alors comment entre-t-il en politique ? C'est parce qu'il sait justement, il sait parler. Donc.
Il sait parler, il a un don oratoire assez incroyable, et à force de gagner des procès, ses amis se disent, mais il pourrait bien gagner des élections. Et donc on le pousse à se présenter à la Chambre des représentants de l'Illinois.
Encore un point commun avec Obama.
Exactement. Il se présente, la première fois, il est battu. Il se représentera en tout 4 fois. La 4e fois, il est élu aussi. Mais à peine élu, il démissionne pour pouvoir être candidat au Sénat. Et là, il sera battu d'ailleurs. Et il faudra attendre encore un peu avant que ses amis disent « Bon, finalement, il faut qu'il se présente à la présidentielle ».
Alors évidemment, ça n'avait rien à voir, une élection présidentielle en 1860, avec ce que ça peut être aujourd'hui. Hein. Ça n'était pas l'espèce d'entreprise gigantesque, titanesque d'aujourd'hui. Ça avait encore un côté presque provincial, il faut bien
oui,
dire.
Oui, mais il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas... Pardonne-moi, nous n'étions pas là. Il n'y avait pas la télévision et il n'y avait quand même pas, je veux dire, les communicants, les grands meetings, etc. Mais il y avait déjà des débats. Et Abraham Lincoln a marqué par sa science des débats. Vous parliez de son art oratoire. Il était connu pour des arguments très percutants, très courts, très clairs. Pardonnez-moi.
Et nous sommes tous dans le même état. Donc
on vous pardonne bien volontiers.
Ça n'est pas très difficile de vous pardonner, Nicole. On peut dire donc qu'à cette époque, il était très difficile de s'imposer au milieu de... Il n'y avait pas du tout les systèmes de sélection qu'on a pu connaître depuis.
Non, c'était très difficile. Bon, je ne crois pas que ça soit devenu facile aujourd'hui, mais c'est autre.
Mieux organisé, disons.
C'est vraiment autre. Et puis, comment dire, Lincoln est un homme qui a tendance à dissimuler son ambition. Hein. C'est vrai que ses amis le poussent, mais il veut y aller. Mmh. Il veut y aller, mais il laisse à penser qu'au fond, il est porté par l'assentiment général ou presque.
Alors, on dit
il n'y avait pas de campagne.
Ah oui, c'est ça.
À l'époque, il n'y avait pas de campagne. Il n'a fait aucune campagne électorale. Il n'est allé nulle part. Il a fait quelques meetings à Springfield, mais pas dans le pays. Alors que son adversaire, lui, oui, a fait campagne, mais a été battu. C'était tout à fait différent.
C'est le système partisan qui finalement était plus important que la conviction personnelle du candidat finalement désigné. Hein.
Oui, d'une certaine façon.
C'était ça l'idée.
Oui.
Alors, on a dit qu'au début de son mandat, le président avait quelques difficultés à dire non, qu'il était peut-être un peu trop gentil.
Oui, c'est vrai. Il avait des difficultés à dire non. C'était un homme généreux. Mais il est élu en novembre 64. Mmh.
En 60, il, 60, 60.
Il est élu en 64.
Pardon, excusez-moi.
Il est élu deux fois, en fait.
En 60. Il est élu en novembre 60. À l'époque, ça a changé depuis, à l'époque, le président élu début novembre ne prenait ses fonctions qu'en mars.
Oui, c'est ça.
Qu'en mars. Aujourd'hui, le président élu prend ses fonctions en janvier. C'est toute la différence.
La et période
quand,
de transition
quand il
était très
élu,
longue.
Oui. Le jour où il est élu, il n'y a encore aucun État qui a fait sécession. Mm-hmm. C'est entre son élection et son inauguration, si mm-hmm. on peut dire, que plusieurs États, 7 ou 8 États, vont faire sécession. Il y a 4 États sudistes et esclavagistes qui ne feront pas sécession, qui resteront collés au Nord. Ce qui posera d'ailleurs des problèmes à Lincoln au sujet de l'esclavage, parce qu'il ne pourra pas aller trop loin, de peur de mécontenter ces 4 États sudistes qu'il avait rejoints. Il est élu, et donc sa première mission et sa seule mission de président, ça va être de réunir un pays divisé. Il faut bien comprendre, il y avait à l'époque 30 millions d'habitants aux États-Unis, 21 millions dans le nord, 9 millions dans le sud, dont 4 millions d'esclaves.
Eh oui. Donc une toute petite population finalement dans le sud,
oui.
Une population de citoyens.
Et les gens du sud, c'est pour ça qu'il faut appeler ça une sécession, avaient élu une assemblée à eux et un président à eux, Jefferson Davis. Mm-hmm. Donc c'est vraiment une coupure. Et Lincoln se donnait pour principal devoir, non pas d'abolir l'esclavage, mais de réunir les deux parties divisées de l'Amérique, de son pays.
Et finalement, c'est comme ça, c'est pour cette raison-là qu'il va devoir s'intituler chef de guerre et mener cet extraordinaire conflit. On peut dire qu'à partir de là, la boucle est bouclée, finalement,
Bernard Vincent. Et en août 1862, il dit ceci, « Si je pouvais sauver l'Union, sans libérer un seul esclave, je le ferais. Si je pouvais la sauver en libérant tous les esclaves, je le ferais. Si je pouvais y parvenir en libérant certains sans toucher aux autres, je le ferais aussi. » Donc, son absolu devoir, c'était l'union. C'était réunir le pays.
C'est-à-dire que là encore, il ne faut pas se tromper de priorité dans l'esprit de Lincoln. Certes, il est abolitionniste, certes, il est l'homme par qui est arrivé l'abolition de l'esclavage, mais ça n'était pas son premier objectif. Visiblement, le premier objectif, c'était bien de réunifier ces États-Unis qui s'étaient complètement scindés.
Le 1er janvier 1863... Il y a sa fameuse proclamation d'émancipation,
oui, voilà.
Qui va faire beaucoup de bruit. Mais elle ne concerne que les esclaves des pays sécessionnistes. Elle ne concerne pas les esclaves des pays des autres,
les États,
des pays qui sont restés fidèles
à l'Union. Les États qui sont restés fidèles à l'Union. Oui, c'est un peu un paradoxe.
C'est que quand l'armée libérait un État, les esclaves étaient libérés sur place.
Bernard Vincent, décidément, on a du mal à finir cette émission. Lincoln, l'homme qui sauva les États-Unis, aux éditions de l'Archipel. Et puis je signale également, chez Belin, Abraham Lincoln de Thomas Kennelly, l'homme qui a créé l'Amérique moderne. Également dans le Figaro Histoire de ce mois-ci, un dossier sur Lincoln de l'histoire à l'écran. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce grand personnage.